Même s'il se dit un croyant, l'homme a besoin de croire. Ça le fait avancer. Et en fait, il met toujours sa foi quelque part. Il croira par exemple que la société de consommation peut le rendre heureux, et il se pliera à la logique de cette société qu'on connaît, loisirs, sport, confort, puissance, pouvoir, responsabilité, réussite, etc. Ou alors, il croira que cette société est contestable, et il mettra sa confiance, sa foi, dans un autre modèle pour lequel il militera, justement parce qu'il y croit. En fait, nous sommes bien moins indifférents qu'on ne le dit. Chacun croit en quelque chose et il vit en fonction de ça. Le plus souvent d'ailleurs sans se demander en quoi il croit, peut-être d'ailleurs par peur de se poser les vraies questions, de peur d'être déçu d'une réponse qui remettrait en question ses choix. Ou alors, pour ne pas se rendre compte que l'objet de sa foi est bien bas, à court terme, à courte vue, et que les vraies questions restent en lui sans réponse. Autant donc ne pas se les poser pour ne pas être embarrassé par les réponses. Mais, vous le savez, on ne chasse pas aussi facilement ce qu'on peut appeler les dossiers de la vie. Il ne se laisse pas classer dans un coin de notre existence jusqu'à l'oubli. Et ils ressortent fréquemment, tout seuls, à l'occasion d'une circonstance qui nous provoque, par exemple un événement douloureux, un moment de fragilité, une déception. Et alors la question revient, le sens de la vie, de la mort, qu'y a-t-il après la mort? Rien. Alors, pourquoi vivre? Autant mourir tout de suite, surtout si l'espoir d'être heureux m'échappe. Ou alors, autant profiter de la vie de n'importe quelle façon, plus ou moins désordonnée et égoïste. Nous le voyons, on n'évacue pas aussi facilement le fameux domaine métaphysique. Et d'ailleurs, c'est bien car ce serait nous amputer très certainement d'une partie essentielle de nous-mêmes. Celui qui le refoule crée finalement un vide en lui qui vient se remplir parfois de n'importe quoi. Mais alors, quand on l'aborde, on fonctionne souvent aujourd'hui avec les lois du marché. On achète à la mode, et la mode sur cette question de l'après-mort semble passer à la réincarnation. Tant il est devenu, à la mode justement, de penser contre, et plus particulièrement de penser contre l'Église par une sorte d'esprit de contradiction ou par provocation, finalement par contagion plus que par conviction. C'est un fait très curieux, dit le père Manarange, que l'homme d'aujourd'hui, plus il se dit incroyant, plus il devient crédule. Et il croit en des théories les plus bizarres et non fondées scientifiquement, alors qu'il refuse la vérité de la foi chrétienne, soi-disant parce qu'elle n'est pas vérifiable scientifiquement. Mais aussi peut-être par modernisme spirituel, c'est-à-dire un certain attrait de la nouveauté du dernier spirituel sur le marché, surtout si ce dernier spirituel est d'origine orientale, avec l'attrait de l'exotique qui en découle. Alors la réincarnation séduit une fraction importante des Occidentaux. Tous n'y croient pas, bien sûr, mais beaucoup y portent attention. On en entend de plus en plus parler. Une enquête de 1983 indiquait déjà que 21% des Européens et 22% des Français croyaient en la réincarnation. On rejette, nous le voyons, l'incarnation et on adhère à la réincarnation. Peut-être parce que face à la mort, cette idée apparaît comme réconfortante. Mais alors, qu'est-ce que la réincarnation? Il faut tout d'abord savoir que ce mot est de formation récente. Il est apparu au XIXe siècle. Avant, on trouvait différents termes, et on les trouve toujours, qui désignent globalement la même réalité, par exemple la transmigration, qui évoque l'idée d'un voyage au cours duquel l'homme change d'état ou de condition en prenant d'autres formes sur Terre ou ailleurs. Un autre mot qu'on trouve souvent, c'est la métempsycose, qui considère que l'âme va animer plusieurs corps, éventuellement dans...